pourquoi lisons-nous? Et on enquête sur la lecture comme expérience. Pierre Zawi, lire le boudoir, les plaisirs de la langue.
Bien, donc Christopher m'a demandé de parler de... Dans ce cycle qu'il inaugure, de la question des lectures érotiques. Donc il avait organisé tous ces dîners autour duquel, les uns après les autres, on lui a parlé des livres qui avaient bouleversé notre vie ou qui nous avaient changé. Donc j'ai accepté avec plaisir de passer un autre plaisir de la chair, pris la chair qui se mange, mais la chair qui se déguste. C'est pas sûr toutefois que la plupart de mes lectures érotiques aient bouleversé ma vie, sauf sans doute Sade. Sade qui est un sort à part, on en parlera après. En même temps, j'ai pas voulu vous faire un cours sur Sade. Ça a pas beaucoup d'intérêt. Il faudra voir la problématique que ça pose du point de vue de l'érotique, parce que c'est pas très sûr que Sade soit l'auteur le plus excitant. Là-dessus, je suis pas du côté de David Monique Ménard qui disait qu'on ne pouvait pas lire deux pages de Sade sans se masturber. Il me semble plutôt que quand on lit Sade, notamment les 120 journées, c'est difficile de ne pas en être malade, comme disait Bataille, de ne pas en sortir malade. Dans cette maladie même, il y a quelque chose qui se donne à penser, qui se donne à penser sur le désir. Bon, alors si je ne veux pas vous faire de leçons, qu'est-ce que je pouvais faire pour amorcer le dialogue, puisque l'intérêt quand même de discuter dans ce genre de lieu, avec ce genre d'installation, c'est quand même qu'on puisse se parler, puisque d'écouter quelqu'un donner la leçon, surtout sur ces questions-là, où il n'y a pas beaucoup de leçons à donner, je crois. Donc je vais me contenter d'une série de propositions. C'est des propositions très subjectives, disons 10 propositions en faveur des lectures érotiques, qui sont des propositions très subjectives, qui sont donc toutes discutables et réfutables, et vous pourrez vous opposer. Il y en a certaines qui sont intuitives, d'autres contre-intuitives, donc ça permettra peut-être de mieux lancer le débat. Deux postulats qui sont eux-mêmes sujets à discussion, mais deux postulats dont je pars pour qu'on s'entende là-dessus. Quand je parle de littérature érotique, je ne fais pas de distinction entre l'érotique et la pornographie. Il me semble qu'il n'y a pas de distinction qui tienne sérieusement. D'abord parce que vous savez que et Baudelaire et Flaubert ont été condamnés pour pornographie. Donc le terme même de pornographie est une évolution... historique et un sens historique qui est extrêmement relatif. Et ensuite et surtout parce qu'il me semble qu'il peut y avoir dans certains types d'érotique ou certains types de littérature dite érotique beaucoup plus d'obscénité, beaucoup plus de choses insupportables que dans de la littérature qui serait clairement et explicitement pornographique, que ce soit dans la littérature hétérosexuelle, gay, libertine, des choses comme Proust de Renaud Camus ou d'autres. Bien, donc pas de distinction entre érotique et pornographie, on pourra revenir dessus et en discuter. Et deuxièmement, pas de distinction nette et immédiate entre littérature érotique et littérature tout court. Je ne peux pas tant parler du genre littérature érotique que parler de la dimension érotique qu'il y a dans la littérature. Alors il est sûr que s'il n'y a pas de distinction a priori, il y a toujours des distinctions a posteriori. Mais disons qu'on peut, et là ça dépend aussi des perversions de chacun, trouver aussi un fort érotisme dans des textes qui a priori ne sont pas. On peut trouver, avoir une lecture très érotique de Kafka, je pense. On peut avoir une lecture très érotique. Bon, alors pour Joyce c'est plus facile, mais si on ne distingue pas érotique et pornographie, etc. etc. Donc, ne fermons pas le cadre, même si à un moment ou à un autre, il y a toujours quand même cette distinction qui pourra réapparaître. Donc, si on ces 10 propositions. Première proposition, le désir. C'est une proposition sur le désir, mais qui a donc un sens vis-à-vis de la lecture. Le désir est une invention et une conquête de la civilisation, entendue au sens large, de la culture, qui caractérise toutes les sociétés. Mais tout particulièrement, évidemment, les cultures livresques. comme on dit, lire participe activement et peut-être même principalement à la constitution de notre désir. Ça signifie quoi ? Ça signifie que je m'oppose à deux traditions. D'une part, la tradition des ars erotica, des arts d'aimer, qu'on a chez Ovid, qu'on a chez Kamasutra, etc. Regardez la petite bibliographie. M'oppose à cette tradition des arts d'aimer, au sens où il y aurait un raffinement, où ce serait finalement des désirs bruts qui seraient propres de l'humanité vulgaire, et que l'humanité cultivée, l'humanité lectrice, aurait au contraire des désirs raffinés. Il me semble que ce n'est pas tellement une question de raffinement du désir que de constitution du désir. C'est-à-dire que sans lecture, il est difficile souvent d'avoir simplement des désirs. On a autre chose, on voit des pulsions, mais ce n'est pas des désirs. Deuxièmement, je m'oppose à l'idée qu'on trouve notamment chez Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu, quand il dit, vous connaissez tous la formule, plus on cultive l'art, moins on bande. Il me semble, alors la formule de Bandé, je crois que la séance précédente c'était sur la question du genre, et un petit peu d'un autre âge, mais on ira des émois, ou des émois érotiques. Il me semble qu'au contraire, plus on cultive l'art, plus on lit. Et plus on a des émois érotiques, et mieux sont nos émois érotiques. Bon, comment expliquer cette première proposition ? En un sens, c'est très simple, hein, c'est la vieille idée de La Rochefoucauld, il y a des gens qui n'auraient jamais aimé s'ils n'avaient entendu parler d'amour. Il y a des gens qui n'auraient jamais aimé s'ils n'avaient entendu parler d'amour. Il est évident qu'il y a une prise symbolique sur le désir, et là, ne distinguons pas. Les Grecs avaient cette bonne idée de ne pas distinguer entre le désir et l'amour, ils appelaient ça Eros dans les deux cas, et il me semble que oui, entendre parler, notamment dans les livres, c'est essentiel pour la constitution de notre objet d'amour, parce que les livres nous indiquent au fond un objet. Et que sans objet, on n'a pas de désir. Le désir, ce n'est pas un don du ciel, qui naît et qui nous est donné. C'est d'abord des objets autour de nous qui viennent, qui nous attirent et qui produisent des tendances à produire de la liaison avec un certain nombre d'objets. Plus techniquement, si on prend la chose d'un point de vue un peu psychanalytique, on pourrait dire la chose en distinguant désir et pulsion. Une pulsion, c'est quoi ? Très banalement, c'est une dérive. Une pulsion, elle est toujours en dérive par rapport à un objet originaire toujours absent. Ça, c'est la thèse fondamentale de Freud. La pulsion, elle glisse sur les objets, et que la pulsion au départ, elle est donc toujours multiple, les pulsions qui viennent du ça. Elles sont toujours multiples, changeantes, évanescentes, et elles se fixent jamais, souvent dans la perversion, où elles dérivent sur des objets qui sont toujours des objets partiels. Des pénis, des seins, des fesses, etc., des trous, tout ce que vous voudrez. Au contraire, le désir suppose un objet complet, et la constitution d'un objet complet est dans la tendance à la liaison, ce qu'est le désir, dans la tendance à la liaison avec cet objet complet, ça suppose une durée et une persévérance. C'est cela que Spinoza a fait du désir l'essence de l'homme. C'est l'expression chez l'homme de la persévérance dans son être. Et il me semble que c'est très important, désirer quelque chose, c'est être capable de persévérer dans la quête de cette chose. Et pas simplement de se contenter d'en rêver ou d'y être attiré à l'occasion. D'en être attiré à l'occasion. Autrement dit, et c'est là où nous sommes cette première proposition, la lecture, c'est ce qui nous permet de sortir du marécage pulsionnel indistinct pour constituer des désirs perdurants ou des amours perdurants qui tiennent un petit peu la route. Ça ne veut pas dire nécessairement éternellement, mais enfin pendant un certain temps. Le désir des Spinoza est ce qui inscrit à l'éternité dans la durée. Là, c'est dit. Et au fond, inscrire l'éternité dans la durée, bah, ça doit s'inscrire et ça doit s'écrire. Et annexement, ça doit s'écrire. Voilà pour la première proposition. Seconde proposition, elles ne tiennent pas toute la route à part égale. Hein, mais seconde proposition qui est un peu le revers, pas l'envers, mais plutôt le revers de la précédente. On pourrait dire aussi bien que les lectures érotiques permettent tout autant d'articuler son désir vis-à-vis d'un objet complet à des objets partiels. Pour le signifier autrement, permet à son désir aussi d'apprendre à traverser ses propres fantasmes qui sont le lieu où le désir a spontanément se manifeste. Pourquoi cette proposition ? Elle contredit moins la proposition précédente, au fond qu'elle la complète et qu'elle en montre les limites, parce qu'il me semble que la limite de l'objet complet, c'est qu'il risque toujours d'être décevant. Ce que disait Lacan. Mais cet animal qui n'aura jamais été que déçu, avec l'usage assez important du futur antérieur, il est décevant, l'objet complet, parce que dès qu'on croit l'avoir saisi, on le perd. Puisqu'au fond, on se rend compte que c'était qu'un substitut d'un autre objet qui, lui, est perdu à jamais. Puisque en psychanalyse, tout objet d'amour est un objet perdu. Or, il me semble que de ce point de vue-là, la littérature érotique, et c'est ça qui permet de comprendre spécifiquement l'intérêt de la littérature érotique ou de l'érotique dans la littérature, c'est justement de nous redonner à penser cette constitution, depuis les objets partiels jusqu'à l'objet complet et retour. C'est-à-dire de remettre en vie le processus de constitution du désir. Et pas simplement et donc de nous défaire de la croyance ou de l'illusion en une naturalité des désirs. Il n'y a pas de désir naturel, il n'y a pas de désir simple, il n'y a pas de désir nécessaire pour reprendre les catégories anciennes d'Épicure. En ce sens, il me semble que la littérature érotique permet d'ouvrir la boîte noire de la question de nos désirs et permet d'essayer d'un peu mieux comprendre comment ça se constitue, comment on passe d'un objet partiel à un objet complet, et comment au fond le désir se revivifie aussi en reprenant des objets partiels, c'est-à-dire reprenant les constitutions du corps de l'autre et de l'esprit de l'autre. Il me semble qu'on peut avoir du désir pour les deux, sans nécessairement lui donner un ordre analogique, comme chez Platon, dans Le Banquet. Vous connaissez tous ça. Un peu comme dans Le Mépris de Godard, pas sur Moravia, ou pas du tout cette scène érotique, mais dans Le Mépris de Godard, tu les aimes mes fesses, tu les aimes mes jambes, tu aimes mes seins, oui, je t'aime totalement, entièrement, tragiquement. Cette idée, à partir de ces désirs partiels, on constitue un désir d'objet complet, total, qui finit par être tragique et qui va finir par être tragique. Là, dans le roman comme dans le film. Troisième proposition, alors le problème qui se pose avec la référence que je viens de vous donner, c'est au fond, oui, il y a Le Mépris de Godard, il y a des films érotiques, et puis aujourd'hui, au fond, quand on parle de, si on ne distingue pas érotique et pornographie, et si on a envie du plaisir, de toucher à ces plaisirs d'Eros, il y a des sites spécialisés pour ça, il y en a énormément, il y en a absolument pour tous les goûts, il y en a un ami qui en ce moment à Beaubourg fait un site pour essayer de comprendre. Comment est-ce que c'est pas possible de reconstituer un traité des passions à partir de tous les sites qu'on voit sur Internet ? Il y a des sites absolument incroyables. Bon, on en a parlé, je ne suis pas tous allé les voir. Des gens qui fument, nus ou en se masturbant. Des sites de soumission financière ou des aides prennent une maîtresse à qui ils donnent tout leur argent, notamment. Bon, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. C'est quoi quand même le privilège de la lecture par rapport à Internet, par rapport au cinéma, par rapport au film ? Il me semble que c'est la troisième proposition. La lecture nous libère, au moins parfois, de la prison de l'image. Plus exactement, par la lecture, le désir démultiplie les images, mais sans s'y brûler et sans s'y perdre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est dans l'image, justement, on n'est pas complètement dans le désir. Quand on est dans l'image, on n'est pas complètement dans le désir. Là, il y a une autre distinction, à mon avis, très importante pour comprendre le désir qu'il faut amener ici, c'est l'opposition entre le désir et la jouissance. Au fond, la jouissance, ça a toujours été, ça depuis longtemps, même chez Épicure, ça a toujours été l'abolition du désir. Et c'est en ce sens-là que Épicure peut faire l'apologie, une apologie très ascétique des plaisirs, plusieurs naturels et nécessaires, ils sont bons parce qu'ils éteignent le désir. Et que le désir, c'est mauvais parce que le désir, c'est toujours une souffrance. Ce qui me semble intéressant, au contraire, et cette souffrance-là, elle se donne à voir, elle se donne à penser essentiellement dans l'image. Parce qu'au fond, dans l'image, on est toujours prisonnier de l'image, il y a une réification qui ne nourrit pas le désir. Pourquoi ? Parce que le désir, il est toujours désir d'un autre désir. Ce qu'on désire dans le désir, c'est voir un désir se manifester. Or, dans l'image, il y a toujours, on est pris dans son désir et le corps de l'autre finit toujours, à un moment ou à un autre, par être réifié, par être objectivé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, hein, mais ça veut dire que ça produit de la jouissance, c'est-à-dire que ça consomme son objet. Au contraire, et donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que l'image, elle renvoie toujours à une pulsion, à la pulsion scopique, à la pulsion de voir, et elle rabaisse toujours le désir dans l'ordre pulsionnel. Au contraire, la lecture, en nous en rentrant dans l'ordre symbolique et en inscrivant ce désir dans l'ordre symbolique, au lieu de l'éteindre, le relance. Et de l'éteindre, le relance, et de ce point de vue-là, le grand avantage, me semble-t-il, c'est une thèse de la littérature érotique sur toutes les sortes d'images, les images les plus travaillées, aux images les plus trash, c'est justement qu'elle produit des images qui sont, on pourrait dire, transies par le symbolique et qu'elle ne produit pas d'images dans lesquelles on se perd ou alors on vomit. Hein, je pense, de ce point de vue-là, que toutes les critiques assez sévères que Roland Barthes ou Michel Foucault, pour des raisons d'ailleurs très différentes l'un et l'autre, avaient adressées au Salaud ou les 120 journées de Sodome de Pasolini, étaient assez justifiées. Du texte de Sade, il avait fait, alors après c'était du Pasolini, hein, c'était moins du Sade que du Pasolini, mais il avait fait un film relativement insoutenable. Quelque chose justement dans la littérature érotique qui résiste à l'image et qui ne doit pas passer dans l'image. Et qu'on n'y gagne pas, c'est peut-être le domaine où c'est très dans le champ de questionnement très vaste des adaptations entre cinéma et lecture, il me semble que ce qui supporte le moins l'adaptation. C'est la littérature érotique, et ça a été érotique pour une raison absolument essentielle, c'est que le désir, il passe dans le symbolique, alors que la jouissance, elle passe dans l'imaginaire. Bon, dans le sens, cette troisième proposition, c'est un peu la proposition centrale, on pourra en déduire trois autres un peu plus rapidement, qui sont donc les corollaires de cette proposition centrale. Quatrième proposition, ça consisterait à dire que le désir est toujours une histoire. Toujours une histoire, c'est toujours un mythos. C'est à la fois une fiction et une intrigue, une mise en abîme. Et que de ce point de vue-là, le désir, il est, pour employer des gros et vilains mots, pas très érotiques, mais que le désir, que l'histoire du désir est toujours en homologie structurale avec la lecture. Autrement dit, c'est le sens de l'histoire et de la narration, tout le sens narratologique que nous donne la lecture est à peu près essentiel pour pouvoir penser et élaborer son propre désir, parce qu'on ne peut pas élaborer autrement son désir que comme une histoire. Qu'est-ce que ça veut dire en effet que lire ? Lire, c'est d'abord s'engager dans une intrigue où, au fond, rien n'est donné d'avance. On peut, l'expérience de la lecture, on peut s'identifier, se désidentifier, on peut aimer, on peut trouver de l'intérêt, on peut s'ennuyer, on peut laisser tomber le livre, on peut le jeter à la tête de son voisin, on peut se mettre en colère, etc. Et où l'histoire, pour parler comme Aristote, elle se déploie toujours sur une série de péripéties et de reconnaissances. Ah oui, là c'est bien moi, ou là c'est pas moi, ou là c'est un tel, et là c'est pas un tel. Il me semble que le désir, c'est exactement la même chose. Le désir, c'est le même engagement, la même persévérance, la même intrigue. Et encore une fois, dès qu'il n'y a pas d'intrigue, on retombe dans un champ pulsionnel, c'est-à-dire qu'on détruit la figure de l'autre, un petit objet partiel, un spécifique. Mais ce n'est plus l'autre qu'on désire. C'est plus le désir de l'autre que l'on désire, mais c'est simplement ses jambes sont pues, etc. Il y a quand même une chute là dans l'ordre du désir, parce qu'encore une fois, le principe de toute pulsion, c'est quand même de se dissoudre, elle tend vers sa dissolution et vers son appauvrissement. Donc de ce point de vue-là, cette homologie, elle me semble essentielle dans cette histoire, et que s'il y a un propre de la littérature érotique, c'est de dire l'histoire du désir, notamment là, s'il fallait distinguer entre romans d'amour ou littérature d'amour, amoureuse, et littérature érotique, ce serait de reprendre le mot de Sade, c'est-à-dire il faut tout dire. Ce que Sade dit au début de Juliette, qu'il faut absolument tout dire de ce qui va se passer, ou au début de son histoire de la peinture, il dit il faut tout peindre, et que le principe de l'érotique. Le seul, au fond, la seule distinction un peu sérieuse entre l'érotique et le roman, parce qu'en un certain sens, on pourrait dire le roman ou même la poésie, toute la littérature a trait au désir, bien évidemment, hein, avec toute la poésie a trait au désir, ce qui caractérise la littérature érotique, c'est que dans le désir, elle va dire tout. Autrement dit, elle ne va pas nous faire du Stendhal. Stendhal, c'est sublime, mais Stendhal, c'est... Souvenez de la fin de la Chartreuse de Parme, Clélia ne lui ferma pas sa porte. Point. Point virgule, et puis il continue. Dans ce point virgule, il y a toute une nuit d'amour, dans le noir, chaud bouillante, qui se passe, et on sait rien. Bon, la littérature érotique, c'est quoi? C'est, bah, on va déplier le point virgule, on va ouvrir. c'est pareil avec Julien. Julien, comme on dit dans les romans, se moque d'ailleurs lui-même Stendhal, après sa première union avec Madame de Rênal, se disait qu'il n'avait plus rien à désirer. Bon, donc voilà, on fait l'ellipse complète, mais bon, ça c'est le grand principe, c'est un meilleur qu'on ne peut pas peindre ni décrire les moments de plus haut bonheur ou les moments de plus grand plaisir. Au contraire, il me semble que c'est l'érotique. L'érotique dit chiche, allons-y. Allumons la lumière dans la chambre de Fabrice et Clélia. Alors une lumière un peu tamisée puisqu'ils n'y ont pas le droit, mais qu'au moins, comme on sait faire, même dans les films, on va voir, même ceux, même si eux, ils ne sont pas censés voir. Ça serait la quatrième proposition. Cinquième proposition, ça dirait que lire, et au fond, c'est un peu la même chose, lire nous apprend à ralentir notre désir. Parce qu'au fond, c'est ça, la lecture, c'est toujours une expérience de la lenteur. Avec Marty, on parlera peut-être dans la dernière conférence du cycle, mais c'est d'abord une expérience de la lenteur. Il n'y a pas de lecture rapide, il n'y a pas de lecture en diagonale. C'est drôle de dire ça, alors qu'au fond, quand on fait de la recherche, on ne fait que ça. On lit un peu, le début, la fin, les lire, il faut qu'on lit en entier. Mais bon, là-dessus, il ne faut pas déconner, on travaille, on ne lit pas. Et quand on travaille sur des textes, mais travailler sur des textes, ce n'est pas lire. Et l'expérience de la lecture, c'est toujours être lent. C'est toujours savoir s'arrêter, c'est revenir en arrière, c'est reprendre, et c'est relire. De ce point de vue-là, le mot qui convient à la lecture, ce serait ce poème, à la fois épatant et extrêmement noir, puis assez joyeux, très très bizarre d'Henri Michaud, qui s'appelle « La ralentie ». Ralentie, on tape le pouls des choses, on y ronfle, on a tout le temps, etc. Avant qu'apparaisse le grand désespoir de la ralentie. Bon, la lecture, c'est une ralentie. Et il me semble que le désir, de la même manière, c'est une ralentie, et apprendre à désirer, parce que ça s'apprend, comme dit Nietzsche. Nietzsche dit apprendre à aimer, mais on apprend aussi à désirer. Et apprendre à désirer, c'est d'abord, et la première chose à faire, c'est apprendre à ralentir, apprendre à atermoyer, apprendre à repousser l'orgasme. Ce que chacun a vu, c'est-à-dire que l'idée que la littérature érotique, ce sont des livres qui se lisent à une seule main, me semble être un parfait contresens, parce que justement, l'intérêt de la littérature érotique, c'est qu'elle repousse, elle atermoie le moment de l'orgasme, ou va s'affaisser, au moins pour un moment, le désir. C'est-à-dire qu'elle tient à ce que le désir reste vivant. Plus exactement, on aurait peut-être là... Parce que c'est pas vrai, il existe quand même des livres qu'on lit à une seule main. Mais c'est peut-être là où on peut distinguer la bonne ou la grande littérature érotique de la faible littérature érotique. Même s'il me semble qu'à la fin des fins, cette distinction ne marche pas. Là, il y a une contradiction avec la dernière proposition que je vais vous faire. On pourrait distinguer, au fond, en disant c'est quoi la grande littérature érotique? La vraie grande littérature érotique, c'est celle qui inscrit le désir dans la vie. C'est-à-dire qui raconte tout, mais qui raconte aussi le reste. Et là-dessus, Sade est extraordinaire. C'est-à-dire que pourquoi il est possible? Il y a tellement de scènes épouvantables. Bon, laissant la journée, c'est à part. C'est vraiment là une expérience aux limites de ce qu'il peut y avoir dans la ville de nos désirs. Il faut y aller, mais enfin, faut pas y aller à une époque où on va pas bien. Justine ou Juliette, qui sont quand même ces deux chefs-d'œuvre, là, il y a tout. Et le désir au milieu de la vie, et il s'arrête après nous avoir montré une orgie absolument merveilleuse ou épouvantable, suivant le point de vue dans lequel vous l'avez lu. Vous avez la Delbène qui dit « Allez, causons un peu !» Et puis on va discuter du bonheur, de la mort, de l'existence de Dieu, et tout ça se fera avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de mauvaise foi, avec beaucoup de contradictions. Ah, puis on va insérer le tout dans une intrigue, on va pouvoir parler de nourriture, parce que bref, y a dans la grande littérature cette inscription du désir dans la vie et au fond cette osmose du désir et de la vie. Au contraire, la mauvaise littérature érotique, elle sort le désir de la vie, elle en fait une alcôve, elle en fait un boudoir. Alors justement, la philosophie dans le boudoir, bah, il faut toujours cette scène-là, mais il faut que ce boudoir, ce soit un château, au sein duquel tout un monde et toute une existence puisse se reconstituer. Donc voilà, cinquième proposition, la ralentie. On a besoin de lire parce qu'on va trop vite dans nos désirs. Ceux qui ne lisent pas, ils sont trop rapides pour désirer. Il n'y a que les lents qui peuvent désirer un peu sérieusement. Sixième proposition, qui est un peu le complément de la précédente, lire permet tout autant d'intensifier et d'enrichir son désir. Ça va de soi. L'érotique, là, c'est très simplement, je disais que je me posais tout à l'heure aux arts d'aimer, en sens, ça s'inscrit quand même un peu toujours dans les arts d'aimer, ça ouvre le champ des possibles, et ça ouvre le champ de l'intensité. Sans littérature érotique, quand on ouvre, il me semble, du porn, on se dit, bon, c'est pas pour nous, d'accord ? Là aussi, il y a à peu près tout ce qu'on veut, possible, mais on dit, c'est pas pour nous, c'est pas nos corps, c'est pas la technique, c'est pas... ce qui est intéressant dans la littérature érotique, même les 11 000 verges, ou Toussade, ou Pauline Réage, ou Histoire d'eau, c'est que ça vient nous prendre dans notre simplicité, dans notre caractéristique de common man, dans nos laideurs, dans nos imperfections corporelles. Et ça montre que là aussi, c'est possible d'élaborer quelque chose et d'élaborer des liaisons entre les corps qui peuvent être intéressantes. Donc de ce point de vue-là, il faut ralentir, mais ralentir, ça ne veut pas dire baisser l'intensité. Il me semble que le propre du désir, si encore une fois vous acceptez, vous n'êtes pas obligé. Un gars comme Jean-Luc Nancy déteste cette opposition. Moi, il me semble essentiel le désir, d'opposer désir et jouissance. Si vous pensez que la jouissance, c'est quand même la destruction d'une manière ou d'une autre du désir, si la jouissance n'était pas bordée, on serait tous brûlés à l'essence, ou on finirait tous dans les orgies sabiennes. La littérature érotique, malgré tout, elle réouvre ses possibilités. Même quand on a un désir très simple, très normal, très, 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 très convenu, par la littérature érotique, on la nourrit d'une virtualité beaucoup plus grande. Bon, je pense que cette position elle est assez simple. Elle ne mange pas beaucoup de pain. Septième proposition, trois autres propositions un peu plus générales. Septième proposition, c'est quand même grâce à la lecture qu'on apprend à demeurer le sujet de son désir. Le drame du désir et la peur du désir, c'est quand même, puisque tout désir est désir de l'autre, c'est qu'on risque toujours d'être prisonnier du rêve de l'autre et prisonnier du désir de l'autre, ce qui fait que le désir est à la fois excitant et insupportable. Ce qui est bien avec la littérature érotique, c'est qu'elle donne une distance. Elle donne une lenteur qui nous constitue pleinement en tant que sujet. Y compris, et bien plus encore que le cinéma. Bon, dans le cinéma, on n'a pas le choix, on est pris par l'image qui s'impose quand même à nous, tout du long. Le livre, on le prend, on l'ouvre, on le referme. Et que, de ce point de vue-là, l'érotique à proprement parler... c'est justement de nous apprendre à ne pas nous perdre dans les rêves que, donc ça rejoint un peu la troisième proposition, dans les rêves que l'image tendrait, dans laquelle l'image tend à nos enfants. De ce point de vue-là, on pourrait même dire qu'il me semble que la littérature érotique est l'inverse du bovarisme, l'inverse de la littérature à l'eau de rose que lit Emma Bovary, puisqu'au fond, toute cette littérature à l'eau de rose, c'est elle qui va nous perdre dans des rêves absolument impossibles, parce que justement, elle constitue des objets qui n'existent pas. Un, la littérature érotique, elle nous rappelle ce que c'est qu'un objet à désirer, c'est-à-dire un corps réel, avec des trous réels, etc. Et de ce point de vue-là, on y demeure pleinement sujet, et l'enjeu, c'est de demeurer sujet à un endroit, et à l'endroit où quelque chose de plus fort que nous nous submerge. C'est ça l'enjeu de la littérature érotique, c'est comment être un sujet. Ben, ça nous fait vraiment comprendre ce que c'est qu'un sujet en philosophie, c'est-à-dire dans sa double face, d'être à la fois celui qui dit « je », celui qui se pose comme acteur, et celui qui est assujetti à une place, hein, soit grammaticale, soit sociale, comme on dit, les sujets du roi. Cette dualité du sujet, il me semble que la littérature érotique la souligne tout particulièrement. Il nous montre tout particulièrement qu'on ne peut être sujet qu'à l'endroit où on est obligé à quelque chose, par un désir qui est plus fort que soi. C'est le seul endroit, l'endroit où on désire, où on peut devenir sujet. De ce point de vue-là, même Justine, c'est aussi toutes ses infortunes, c'est ce qu'elle apprend. Et elle apprend aussi à sa façon, plutôt à la façon de Sade, qui n'est pas toujours très aimable, mais il s'agit d'apprendre à devenir sujet. Dans Juliette sera constituée en tant que sujet un peu du départ. De ce point de vue-là, parce qu'on parle de Sade, c'est la huitième proposition, il va de soi aussi que la littérature érotique, on ne la lit pas seulement pour le plaisir, pour les plaisirs de la langue, dans tous les sens et les ambiguïtés que vous avez mis dans ce titre. C'est pas que dans les plaisirs de la langue, mais c'est aussi une manière de conjurer tous les déplaisirs qui sont liés au désir. Alors, c'est ça là, vraiment que la littérature érotique porte bien son nom. C'est pas une littérature hédonistique, c'est pas une littérature du plaisir, c'est d'abord une littérature de l'héros, c'est-à-dire c'est une littérature du désir. Il y a beaucoup de littérature érotique, alors évidemment, le fond de commerce, là, c'est Sade, qui ne nous excite pas, qui nous révulse, qui peuvent nous repousser. Il y a certaines scènes de coprophilie, d'ondinisme, d'urophilie, des scènes de torture qui sont absolument insoutenables chez Sade. Et c'est ce caractère insoutenable qui gît parfois au cœur même de nos désirs. De ce point de vue-là, la lecture est quand même une conjuration qui peut être nécessaire, en tout cas si on n'a pas la naïveté de croire qu'on n'a que des désirs sains et naturels. Si on accepte de comprendre que le désir, c'est une construction à partir d'une multiplicité de pulsions partielles, dont des pulsions sadiques, dont des pulsions masochistes, dont des pulsions épouvantables, qui a un fond de désir de viol, de désir d'être violé, de désir d'éviscération, de désir d'éventration, au cœur même de notre désir, dans sa forme même sociable, sociale et aimable, il faut quand même bien un peu le conjurer. Parce qu'à tout prendre, il vaut quand même mieux le vivre ses expériences en effigie que les vivre en chair et en os, de ce point de vue-là. Il me semble que ça peut être une bonne manière, ou pour dire les choses un peu simplement, toutes les censures aujourd'hui, alors le nouveau monstre aujourd'hui c'est plus ça, le nouveau monstre c'est le pédophile, bon, les censures même sur la pédophilie et la littérature érotique m'inquiètent toujours un petit peu. Je préfère qu'un pédophile écrive, ou quelqu'un qui a des pulsions pédophiles, l'écrivent dans son journal ou en face des romans, plutôt qu'il ne s'y exerce directement sur des enfants. Parce qu'après tout, il y a ce continuum entre le désir le plus normalement reconnu et le désir le plus pervers, on va parler le plus monstrueux, il y a un continuum, il n'y a pas une discontinuité. C'est ça quand même la grande thèse qui constitue la valeur de la littérature érotique. Et que de ce point de vue-là, conjurer, c'est pas avoir du plaisir. Il y a certains livres érotiques dont on ressort éreintés et qui sont pas des parties de plaisir. Encore une fois, les 120 journées, c'est pas une partie de plaisir. Enfin, ça peut l'être, c'est certain. Enfin, ça fout les jetons quand ça l'est. Neuvième proposition, qui est un peu la proposition inverse. C'est pas très cohérent ce que je veux dire. Mais elle me semble vraie aussi. C'est complémentaire. C'est apprendre à conjurer ses propres démons, mais c'est aussi apprendre à à respecter ou au moins à accueillir, ça ne veut pas dire à approuver, mais au moins à accueillir les désirs de l'autre. Parce que là aussi, il y a beaucoup de désirs dans la littérature érotique qui ne sont pas les siens. On ne sait jamais d'avance quand on lit un livre érotique si on va y retrouver son désir ou pas. Alors ce qui devient intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à... Par exemple, j'ai une très grande admiration pour Proust de Renaud Camus, sans avoir très spontanément de désir homosexuel. Il me semble que c'est un très grand livre érotique. Et qu'est-ce qui devient intéressant à lire ça? Bon, c'est un Renaud Camus avant de l'abominable facho qu'il est devenu aujourd'hui. C'est le Renaud Camus des années 70. C'est plutôt intéressant. Pourquoi c'est un livre qu'on peut accueillir? Parce que justement, c'est tout aussi intéressant quand même de s'ouvrir au désir de l'autre et de comprendre le désir de l'autre. Puisqu'encore une fois, ce désir de l'autre lui-même est constitutif de notre propre désir. Et que, à cet égard, on n'a pas besoin nécessairement d'y reconnaître sa part. On peut ne pas être excité du tout et trouver un intérêt parce qu'il y a une beauté, justement, des désirs. Et que de ce point de vue-là, il y a une certaine forme de beauté du désir et de beauté du désir de l'autre qui n'a pas besoin d'un embellissement social, qui n'a pas besoin d'une justification par l'amour. Ça peut être beau, simplement, la baise, même quand nous-mêmes, on n'y a pas d'intérêt en jeu. De ce point de vue-là, il me semble que ce que nous apprend au moins la bonne littérature érotique, c'est que le désir n'est pas du tout une affaire d'élan irrépressible ou de parce que c'était lui, parce que c'était moi, mais que c'est d'abord une affaire de négociation et de consentement réciproque à essayer d'adapter son désir au désir de l'autre qui ne sont jamais tout à fait conjoints. Bon, c'est le sens de la formule, c'est l'un des sens de la formule de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est dès que ça colle pas à son désir avec le désir de l'autre. Et donc, il faut bien négocier, savoir comment on consent l'un et l'autre à faire des trucs ensemble, même si au fond, on n'attend pas l'un de l'autre exactement la même chose. Et que de ce point de vue-là, on pourrait dire, on est encore en pleine affaire Weinstein, je pense qu'elle n'est pas finie. La révolution qu'elle promet est plutôt intéressante.
Bonsoir, la bibliothèque va fermer ses portes. Merci d'effectuer rapidement l'emprunt et le retour de vos ouvrages et de terminer vos photocopies.
Okay. C'est presque fini. Qu'il a parié que les violeurs et les harceleurs ne sont pas des grands lecteurs de littérature érotique. Que la littérature érotique peut aussi être une protection contre ça, pas parce qu'elle raffine ou qu'elle sublime, mais d'abord parce qu'elle apprend qu'il y a une vérité du désir de l'autre, même quand il ne correspond pas au sien. Dernière proposition, au moins sur un certain plan, il me semble que la littérature érotique constitue l'essence la plus intime de la littérature tout court. Et ça, à la fois au sens de Proust et au sens de Rancière. Ça constitue l'essence de la littérature au sens de Proust, au sens où pour Proust, la force et la grandeur de la littérature par rapport à la philosophie, c'est que ces vérités sont nécessaires parce que c'est des vérités qu'on y apprend par soi-même. Et que le narrateur, au fond, n'apprend rien de personne que par lui-même et par son expérience, et que le lecteur est invité à son tour faire une expérience avec la recherche qui doit apprendre lui-même la vérité, qui n'est pas nécessairement celle de l'auteur ni celle du narrateur, et apprendre lui-même sa vérité de l'amour, de ce qu'il cherche, de ce qu'est la vraie vie, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, la littérature érotique, elle est proprement littéraire, c'est l'essence de la littérature, parce que justement, ça s'enseigne. Alors, il y a eu mille et un cours, mais au fond, c'est pas ça qui est intéressant. Donc, quand tu disais, vous avez donné la base théorique, non, c'est pas, il n'y a pas de base théorique, justement, on n'a pas besoin de base théorique pour rentrer là-dedans. Et c'est en ce sens-là que ça rejoint l'essence même de la littérature au sens de Rancière, c'est-à-dire pour lui, la littérature qui s'invente au début du XIXe siècle, c'est une expérience essentiellement démocratique. C'est-à-dire que c'est une expérience qui est défaite de l'homme doux. Et c'est ça qui est intéressant. Je n'ai pas arrêté d'essayer de distinguer, parce que je suis une saloperie d'universitaire, la grande et la mauvaise littérature érotique. Mais au fond, le propre et la grandeur finale de la littérature érotique, c'est qu'elle n'a pas de critères, elle ne dépend pas, c'est pas le régime des belles-lettres, c'est vraiment le régime de la littérature, pour parler comme Rancière, c'est-à-dire elle ne dépend pas de l'homme de goût, elle ne dépend pas d'un bon goût ou d'un mauvais goût. Et que de ce point de vue-là, on peut jamais savoir d'avance quels sont les livres, quelles sont les œuvres, un qui vont nous produire les émois érotiques les plus intenses ou les plus intéressants ou les plus bouleversants. J'ai même une amie qui est même universitaire, extrêmement savante, qui m'a dit que son plus grand émoi érotique, elle l'avait eu en lisant Fifty Shades of Grey. Je l'ai regardé avec des grands yeux, mais c'est ça. La littérature érotique, c'est que c'est pas toujours le dessus du panier qui est le plus excitant. Voilà.
Quand j'ai créé donc la compagnie Drôle de rêve, au départ c'était comme souvent un geste artistique, c'était juste une envie. J'adorais la littérature érotique et j'avais envie de partager ce goût-là avec des gens dans la joie, la bonne humeur et autour d'un spectacle. Et très vite, je me suis dit que j'avais pas envie de représenter les textes ou la littérature. L'idée, c'était de faire entendre des textes et de travailler justement sur la beauté des mots, des sons, etc. Le premier spectacle que j'ai créé, ça commençait par une voix qui prévenait les gens et qui disait « Attention, il n'y aura rien à voir, mais tout à entendre ». Donc c'était vraiment l'idée que les images, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les images, c'est à vous de les produire et ce n'est pas moi qui vais les produire pour vous. Et du coup, après, j'ai tiré ce fil-là avec une proposition maintenant que je fais qui est uniquement sonore. Donc c'est une installation où j'invite les gens à venir autour de moi, où je leur bande les yeux et je leur mets un casque sur les oreilles et je leur lis des textes érotiques de mon choix, que je leur impose un peu, quelque part, enfin, voilà. Et tout en travaillant avec une matière sonore, qu'elle soit musicale vraiment, ou des sons, des ambiances, etc. Et l'idée, c'est vraiment ça, de créer un imaginaire érotique à partir de la langue, à partir des mots, et plus à partir de l'image qui nous offre, qui nous oblige quelque part à un regard, à un point de vue et qui peut être un peu tyrannique. Je trouve
tu
que
peux
c'est
lire
bon.
Un texte hein.
Je peux lire un texte, mais je ne sais pas si c'est...
On ouais. Se
voit
dans les yeux.
Ah, si vous voulez. Qu'est-ce que... Ah, bah voilà, je suis tombée sur un texte que j'adore. c'est un signe pour aller. C'est un texte de Jacques Prévert.
La bibliothèque perd ses portes.
Qui s'appelle Sanguine.
Merci de bien vouloir diriger vers la santé. C'est donc une agréable soirée.
La fermeture éclair a glissé sur tes reins. Et tout l'orage heureux de ton corps amoureux, au beau milieu de l'ombre, a éclaté soudain. Et ta robe, en tombant sur le parquet ciré, n'a pas fait plus de bruit qu'une écorce d'orange tombant sur un tapis. Mais sous nos pieds, ces petits boutons de nacre craquaient comme des pépins. Sanguine, joli fruit. La pointe de ton sein a tracé une nouvelle ligne de chance dans le creux de ma main. Sanguine, joli fruit, soleil de nuit.